Biotine, l'émission de vulgarisation scientifique de Graphite.
Bienvenue sur l'antenne de Graphite, vous écoutez donc Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. Je suis très heureux de vous retrouver, je m'appelle Jean-Noël. Et tous les samedis entre 12h et 13h, nous feuilletons comme ça ensemble la revue de presse de l'actualité scientifique pour nous tenir informés de ce qui se passe un petit peu dans les laboratoires du monde entier. Il y a pas mal d'actualités hein, qui nous concernent et on fait un petit peu le point, bien sûr, sur les sujets qui sont à la fois des sujets intéressants et puis aussi des sujets qui sont faciles, on va dire, à expliquer à l'antenne de radio. Parce qu'il y a quand même des sujets vers lesquels je ne vais pas nécessairement m'aventurer parce que ça va être assez compliqué parfois. La science est passionnante, mais expliquer la science n'est pas toujours une chose facile, bien évidemment. Mais c'est un petit peu le contrat que nous avons ensemble avec cette émission qui existe depuis plusieurs années sur l'antenne de Graphite. Vous nous écoutez sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM, graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet en direct ou en différé. Il y a des podcasts que vous pouvez bien sûr récupérer. Et sur l'application Radio Player France, eh bien vous avez la possibilité aussi de pouvoir écouter Graphite et notamment Biotine directement sur votre téléphone. Nous sommes aujourd'hui le 29 mars. Pas énormément d'informations au niveau science et technique. Hein. Il n'y a rien qui a été créé ou annoncé nécessairement un 29 mars. Ben, c'est pas grave. Il y a tout au moins la naissance le 29 mars 1757 de Carl Axel Arrhenius, qui est chimiste et minéralogiste suédois, connu notamment pour sa découverte de l'élément yttrium. Yttrium avec un Y2T. Hein. Lors d'un voyage en Paris, à Paris, je vais y arriver, en 1787, il va rencontrer Antoine Lavoisier, qui est chimiste français. Il devient alors un ardent défenseur de l'enseignement du chimiste. Et lorsqu'il était à Vaxholm, c'est en Suède, eh bien, Carl Axel Arrhenius visite une mine de feldspath à Yterby, Y2TERBY. Il va découvrir un minéral noir qu'il va nommer yterbite. Il va l'envoyer à l'université d'Abo en Suède pour effectuer des analyses complémentaires. Et donc, il y a un nouvel oxyde qui va être identifié et qui va donc prendre le nom d'yttria et puis yttrium, donc pour l'élément qui lui correspond. C'est donc Carl Axel Arrhenius qui découvre ce nouvel élément yttrium, Y2TRIUM. Nous sommes donc en 1787. Décès le 29 mars 1794. Nous restons quand même pas mal dans le 18e siècle pour cette éphéméride. Le décès de Marie-Jean-Antoine Nicolas de Carita, marquis de Condorcet. Ben, c'est celui qu'on appelle tout simplement Condorcet parce qu'il avait un prénom un petit peu trop long. Scientifique, mathématicien, philosophe, homme politique, éditeur français. Condorcet est l'une des grande figure intellectuelle du mouvement des Lumières. Il est célèbre notamment pour ses travaux pionniers en statistique et en probabilité, pour son analyse des modes de scrutin, ainsi que pour ses écrits philosophiques et son action politique, notamment contre l'esclavage et pour l'égalité des siècles. Il était quand même assez précurseur, ce mec. Siégeant parmi les Girondins, il propose la refondation du système éducatif, ainsi que celle du droit pénal. Il est décédé le 29 mars 1794, le marquis de Condorcet. Alors, dans les différents articles que nous allons évoquer dans cette émission, il y a cette question qui parfois agace certains on va peut-être essayer d'avoir la réponse grâce à cet article de Futur à Science. Pourquoi certaines personnes vieillissent mieux que d'autres ? Non mais c'est vrai, il y a un moment il faut quand même se poser la question et à un moment il faut quand même avoir la réponse. Le vieillissement, qui est un processus universel mais profondément individuel, a longtemps été perçu comme une énigme biologique. En ce début d'année 2020, il y a une équipe de chercheurs de l'université de Stanford qui franchissait une étape cruciale dans la compréhension de ce phénomène complexe. Et leur étude, assez novatrice, a été publiée dans la revue Nature Medicine. Et cette étude révélait l'existence de quatre voies biologiques principales du vieillissement, qui, ces quatre voies, sont appelées agéotypes. L'étude a été menée par le professeur Michael Snyder et son équipe. Et ils ont suivi une bonne quarantaine de volontaires en bonne santé. Ils sont âgés de 34 à 68 ans. Et ils les ont traitement suivi sur une période de 2 ans. Et cette approche, qu'on va appeler une approche longitudinale, pardon, qui est inédite dans le domaine, ça a permis d'observer l'évolution des marqueurs moléculaires au fil du temps chez chaque individu. Et les chercheurs ont identifié 4 agéotypes distincts, métaboliques, immunitaires, hépatiques, néphrotiques. Et c'est ça qui est intéressant, on a vraiment ces 4 éléments. Et ces profils correspondent respectivement à des changements liés au métabolisme, au système immunitaire, au foie et au rein. Ce sont donc ces 4 voies qu'on va étudier. Cette classification offre une nouvelle perspective sur la diversité des processus de vieillissement et ça explique pourquoi certaines personnes sont plus susceptibles de développer des problèmes de santé spécifiques en vieillissant. Par exemple, les individus présentant un agéotype métabolique pourraient être plus enclins à développer un diabète, tandis que ceux qui ont un profil immunitaire pourraient faire face à des défis différents. Cette découverte ouvre la voie à des approches personnalisées pour prévenir et gérer les problèmes de santé liés à l'âge. Et l'un des aspects les plus fascinants de cette recherche, c'est la mise en évidence de la plasticité un petit peu du vieillissement. C'est-à-dire que contrairement aux idées reçues, les marqueurs du vieillissement ne suivent pas toujours une progression linéaire. Certains participants ont même montré une diminution de ces marqueurs au cours de l'étude, ce qui suggère un ralentissement du processus de vieillissement. Et ces changements positifs ont été particulièrement observés chez les personnes ayant modifié leur mode de vie, notamment leur alimentation. Et cette découverte souligne l'importance des choix de vie dans la modulation du vieillissement. Le professeur Snyder lui-même, qui participe à l'étude, a commencé à soulever des poids dans l'espoir d'influencer positivement ses propres voies de vieillissement. L'étude a également révélé des différences significatives entre les profils de vieillissement des personnes sensibles à l'insuline et celles résistantes à l'insuline. Et cette observation, ça ouvre de nouvelles pistes de recherche sur le lien entre le métabolisme du glucose et le vieillissement. Donc ce sont vraiment des informations intéressantes. Et la découverte des agéotypes représente un pas important vers une compréhension plus nuancée, on va dire, et plus individualisée du vieillissement. Ça pourrait révolutionner l'approche de la médecine préventive en permettant d'identifier les risques de santé spécifiques à chaque individu et ça permettrait également d'élaborer des stratégies de prévention sur mesure. Donc le professeur Snyder souligne que l'agéotype est plus qu'une simple étiquette, il peut aider les individus à cibler leurs facteurs de risque pour la santé et à identifier les domaines dans lesquels ils sont les plus susceptibles de rencontrer des problèmes à l'avenir. Et cette perspective, elle pourrait transformer notre approche du vieillissement. Ça va pouvoir passer d'une attitude un peu réactive à une démarche préventive et personnalisée. C'est ça qui est intéressant, bien sûr. Alors, ces résultats, ils sont prometteurs. Attention, les chercheurs soulignent quand même la nécessité de pouvoir poursuivre les études avec un échantillon bien sûr plus large, parce que là on est quand même sur une 40aine d'individus, et sur une période plus longue, parce que là pour l'instant on est que sur une période de 2 ans. Donc les mystères du vieillissement sont quand même encore loin d'être tous élucidés. Mais en fait, cette étude, elle marque une avancée significative dans notre quête pour comprendre et potentiellement maîtriser ce processus de vieillissement. Et en dévoilant les mécanismes complexes du vieillissement, et bien cette recherche ouvre la voie à une nouvelle ère où chacun pourrait avoir les moyens d'influencer positivement son propre parcours de vieillissement, ce qui promettrait effectivement une vie plus longue et surtout aussi une vie en meilleure santé pour les générations futures. Donc c'est assez intéressant, cet article paru dans la revue Nature Medicine et donc repris là sur le site internet de Futura Science, bien sûr, ce qui permet de comprendre et d'en savoir un petit peu plus sur ce vieillissement. C'est un vrai sujet, on en parle un peu dans cette émission, on a quelques articles sur ces sujets-là, bien évidemment, mais on sait qu'on est encore loin de bien comprendre ce phénomène d'une façon assez exhaustive. On a quelques petites informations qui apparaissent ça et là, mais pour l'instant, on a encore un peu de difficulté pour avoir une vision assez complète de ce domaine-là. Mais en tout cas, comme l'indique cet article, eh bien, c'est une étude véritablement intéressante. Quelques petites brèves que l'on peut trouver dans la revue Science et Avenir du mois de mars. Par exemple, ce pansement, hein, ce patch qui contient des cellules cardiaques qui peuvent se contracter. Elles ont été cultivées en laboratoire. Ça a été testé, en fait, ce patch, pour soigner des patients souffrant d'insuffisance cardiaque. Sur les 15 personnes ayant reçu le pansement, l'une d'elles a finalement bénéficié d'une transplantation, ce qui a permis d'examiner son cœur. Eh bien, les cellules du patch s'étaient intégrées au tissu sans effet secondaire. Donc, comme un genre de pansement qui soigne le cœur, c'est totalement fascinant. Et ça nous vient de l'université médicale de Göttingen en Allemagne. Autre petite brève, cette révolution au niveau de la chirurgie maxillofaciale. Il y a eu le prix 2024 de la Fondation des Gueules Cassées qui a été remis par à la professeure Natacha Kadlub. Elle est de l'hôpital Necker à Paris. Et également ce prix qui a été remis à Jean Boisson qui est de l'ENSTEA pour un projet totalement innovant qui s'appelle Dogmali. Ça permet en fait d'allonger l'os de la mâchoire. Il s'agit d'un espèce de dispositif magnétique qui est implanté, qui est mis en lien avec un autre aimant externe manipulé par le patient. Ça fait avancer l'os d'un millimètre par jour sans intervention chirurgicale. C'est une alternative aux techniques actuelles qui sont douloureuses, qui sont inconfortables, où il y a des tiges externes métalliques qui doivent être manipulées. Là, on est sur quelque chose d'un petit peu plus discret, un peu plus appréciable, un peu plus tolérable, on va dire, ce genre d'aimant qui permet d'allonger la mâchoire. Et donc, ils ont reçu un prix, ces deux chercheurs français. Et en santé publique, il y a un calcul inédit qui a été effectué par Santé publique France qui estime que la population en particules fines coûterait environ 200 euros par an et par habitant. En fait, l'étude rappelle que plusieurs maladies ont un lien avéré avec l'exposition à ces particules fines. Le cancer du poumon, l'asthme, l'infection des voies respiratoires, l'infarctus, l'hypertension artérielle. Et donc, 12,9 milliards d'euros serait l'impact financier annuel des particules fines en France. C'est donc une étude de Santé publique France et ça interpelle bien évidemment sur quelque chose qui a vraiment un impact vraiment important et gigantesque. On écoute un peu de musique, on est bien sur Graphite, donc il y a un peu de paroles, on va dire, et de science. Il y a aussi pas mal de musique. On va écouter Ari Alves avec Torture sur l'antenne de Graphite. On se retrouve juste après pour continuer ensemble à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique.
Ton sourire me torture vraiment, comme une vulgaire cage de fer. Tes apparitions me font grincer des dents, car tu es mon tortionnaire. De la foi, tu donnes souffle à tous tes mirages qui disparaissent derrière toi pour forcer les péages. Quand tu me fixes, tu me morsures et le sang se met à pourrir. Ha ha ha. noyer dans la soie, par peur que tu reviennes.
Jean-Noël Moreau, biotine.
Sur l'antenne de Graphite, vous nous écoutez pour l'émission Biotine, pour vous tenir informé de l'actualité scientifique. On vient d'écouter Torture du groupe Ariel Weiss sur l'antenne de Graphite. Et on va parler, pardon, de cet article et de cette alerte sur une épidémie de salmonellose qui est liée à la consommation de graines germées de luzerne. Entre janvier 2023 et janvier 2025, plus de 500 cas ont été signalés dans 9 pays de l'Union européenne. Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies et l'Autorité européenne de sécurité des aliments alertent donc sur cette épidémie de salmonellose. Et donc la luzerne, pour sa saveur douce, c'est la graine germée la plus connue. Mais si ces graines possèdent une image d'aliments sains, eh bien leur consommation, généralement crue, n'est pas sans risque. Preuve en est avec donc cette épidémie de salmonellose qui touche actuellement l'Europe. Les investigations des deux organismes que je vous ai évoqués ont confirmé le lien entre les graines germées de luzerne et les infections. La Norvège est le pays le plus touché avec plus de 250 cas, suivi par la Suède, la Finlande et l'Allemagne. L'épidémie est toujours en cours. Il y a de nouveaux cas qui pourraient apparaître tant que la source de contamination n'aura pas été clairement identifiée et contrôlée. Grâce aux analyses de séquençage du génome et à la traçabilité des aliments, eh bien les graines ont été liées à un fournisseur unique en Italie qui s'approvisionnait auprès de 3 producteurs de la même région. Cependant, il y a des recherches supplémentaires qui sont nécessaires pour déterminer comment les graines ont été contaminées et s'il y a eu une contamination croisée le long de la chaîne d'approvisionnement. Car si cette contamination par la salmonelle peut provenir de l'eau servant à la germination des graines, eh bien des graines elles-mêmes également, ou alors ça peut également survenir lors de la manipulation, donc il faut en savoir un peu plus. Les infections causées par les salmonelles se manifestent plus souvent sous forme de gastro-entérite avec des symptômes qui peuvent être assez graves. Ça peut aussi entraîner des complications assez graves également, notamment chez les nourrissons, les personnes âgées ou celles dont le système immunitaire est affaibli. Il est recommandé à ces personnes d'éviter de consommer des graines germées, sauf si elles ont été soigneusement cuites. Les autorités européenne appelle dès lors les producteurs de graines germées à respecter scrupuleusement les procédures de sécurité alimentaire afin d'empêcher les produits contaminés de parvenir jusqu'aux consommateurs. Donc attention à cette alerte en Europe sur cette épidémie de salmonellose liée à la consommation de graines germées de luzerne. Faites attention si vous êtes consommateur de ces graines germées. Un article, une étude assez intéressante concernant notre smartphone qui est devenu un peu notre compagnon de chevet, mais à quel prix ? Son utilisation tardive perturbe notre sommeil et notre santé mentale. Pourtant, quelques gestes simples suffisent à briser ce cycle néfaste. Et c'est assez intéressant de voir comment on pourrait essayer de pouvoir agir afin d'avoir un meilleur sommeil en clair. Il y a déjà la lumière bleue qui est émise par les écrans qui n'est pas si aussi inoffensive qu'elle en a l'air. Elle joue un petit peu les troubles faits dans notre organisme en perturbant la production de mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Cette interférence bouleverse notre rythme circadien. C'est le rythme circadien, c'est un petit peu ce chef d'orchestre qui régule nos cycles veille-sommeil. Alors concrètement, la lumière bleue, elle affecte notre repos parce qu'elle retarde l'endormissement, elle diminue la qualité du sommeil, elle provoque des réveils nocturnes plus fréquents et elle réduit la durée totale du sommeil. Le docteur Charles Seisler, qui est professeur de médecine du sommeil à Harvard, compare l'effet de la lumière bleue à, je cite, un coup de soleil pour notre cerveau. C'est quand même assez violent comme image. Cette analogie souligne l'impact profond de nos habitudes numériques sur notre bien-être nocturne. Et au-delà de la simple fatigue, l'usage intensif du téléphone avant le coucher a des répercussions insoupçonnées sur notre santé mentale. Ces effets néfastes forment une espèce de cercle vicieux, c'est-à-dire que le manque du sommeil, ça va altérer notre santé mentale, qui à son tour vont perturber notre repos, et ainsi de suite. Et donc briser ce cycle, c'est un peu essentiel pour retrouver un équilibre psychologique et physique. Alors heureusement, il existe des solutions simples et efficaces pour reprendre le contrôle de nos nuits. Alors, quelques astuces pour réduire l'impact négatif du téléphone sur le sommeil. L'idée, par exemple, ça serait d'instaurer un couvre-feu numérique, c'est-à-dire d'éteindre tous les appareils au moins une heure avant le coucher. Alors, ça promet pour certains, ça va être compliqué. Utiliser les filtres anti-lumière bleue. Par exemple, on peut activer le mode nuit du téléphone ou installer une application dédiée qui permet justement d'utiliser des filtres anti-lumière bleue. Bannir le téléphone de la chambre, tout simplement d'investir dans un réveil classique pour éviter la tentation. Et pratiquer la pleine conscience, c'est-à-dire de se concentrer sur la respiration plutôt que sur l'écran avant de dormir. Et donc, l'application de ces conseils demande un peu de discipline, mais les bénéfices sur le sommeil et sur le bien-être général seront rapidement perceptibles, comme le souligne le neuropsychiatre Dr Daniel Amen. Un bon sommeil est le meilleur antidépresseur naturel. Et donc, adopter une approche plus saine de nos appareils numériques, ça ne signifie pas de les rejeter totalement, c'est pas l'idée. Il s'agit un peu de trouver un équilibre, un juste milieu entre connectivité et déconnexion. Et donc, en établissant des limites claires et en privilégiant des activités relaxantes avant le coucher, on pourrait être en mesure d'harmoniser notre relation avec la technologie, tout en préservant bien sûr la qualité du sommeil. Et donc, on a ces petites alertes qui nous sont lancées sur l'idée de ce qu'on appelle le scrolling, l'idée de pouvoir faire défiler avec son pouce pas mal de vidéos courtes et parfois inintéressantes, ça pourrait justement avoir un impact direct sur notre sommeil. Donc c'est un article assez intéressant, bien évidemment, parce que là on est aussi quelque part sur des pratiques, bien sûr, qu'il va falloir modifier. C'est pas toujours simple, on nous en demande des fois beaucoup, c'est vrai que c'est pas évident, bien sûr. Des petites brèves de Science et Avenir, des choses vraiment assez, assez étonnantes. La maladie d'Alzheimer est moins fréquente chez les chauffeurs de taxi que dans 440 autres métiers. Allons bon. Le fait d'être chauffeur de taxi, d'une façon probabilité, on serait moins victime d'Alzheimer. C'est une étude c'est ce que montre une étude de près de 9 millions d'actes de décès aux États-Unis. Cette maladie neurodégénérative attaque d'abord l'hippocampe, qui est le siège de la mémoire spatiale, une structure qui est cérébrale particulièrement développée chez les professionnels, parce que la mémoire spatiale, quand on est chauffeur de taxi, effectivement, elle est un peu plus sollicitée. Et comme ce siège de la mémoire spatiale est le siège du début de cette maladie neurodégénérative, peut-être qu'il y aurait un lien. C'est en tout cas ce que nous montre cette étude qui nous vient de l'université Marvin Medical School aux États-Unis. Autre étude qui nous vient cette fois de l'université de Lübeck en Allemagne, une étude prospective nationale en Allemagne qui a été menée sur 460 000 femmes. Ça, c'est intéressant parce qu'on est vraiment sur un panel très large. Eh bien, cette étude confirme que l'analyse des mammographies par intelligence artificielle améliore le dépistage des cancers du sein. C'est quand même là une preuve de l'utilité de l'intelligence artificielle. Les radiologues sont assistés d'un algorithme de lecture des images et donc les radiologues réduisent un petit peu le taux de faux négatifs et de faux positifs tout en enregistrant un gain de temps considérable. Les experts estiment qu'une généralisation à tout le pays s'avère urgente en Allemagne, avec donc cette intelligence artificielle qui améliore le dépistage du cancer du sein. Enfin, en dermatologie, une étude de l'université de Pittsburgh qui montre que le geste a beau accentuer l'inflammation de la peau et retarder ainsi sa guérison, eh bien le fait de se gratter procure généralement une sensation de plaisir. C'est un paradoxe évolutif qu'une équipe donc américaine vient de percer à jour. Si le grattage stimule excessivement les cellules immunitaires de la peau, elle a aussi pour avantage de réduire la concentration d'une bactérie la plus courante impliquée dans les infections cutanées, qui est le staphylocoque doré. Et donc, la réduction des bactéries est un effet bénéfique du grattage. C'est pour ça que on aurait aussi tendance à aimer se gratter. C'est cette étude de l'université de Pittsburgh. On a enfin une explication pourquoi on se gratte. Non, mais voilà. Mais c'est ça, en biotine. Ça vous permet d'avoir plein d'informations et de pouvoir ensuite, au cours d'un repas, par exemple, savoir étaler votre science. Hein, c'était l'une des rubriques qui existait dans cette émission il y a quelques années. Savoir étaler sa science, ben voilà, des petites brèves comme ça qui vous permet de briller en société. Et en plus, ben, vous aurez une culture musicale, ce qui est quand même pas mal. Hein.
Fall out of love.
Grounded, c'était Ishmael Ensemble. Ishmael Ensemble, pardon. Je découvre en même temps vous les titres, hein. Donc il y a des choses très intéressantes, très sympas. Mais alors, des fois, quand on est obligé de lire le nom des groupes, des fois c'est un peu évident. C'est pas toujours évident, en fait, justement. Ishmael Ensemble, j'espère que je prononce bien. Écoutez, ça s'écrit comme ça, de toute façon. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informé de l'actualité scientifique. C'est un exercice. On ne soupçonne même pas les difficultés qu'il y a parfois à faire cette émission, parce qu'il faut choisir les articles scientifiques, il faut essayer de pouvoir les expliquer. Et en plus, voilà, on a une playlist qu'on découvre, on ne sait même pas comment ça se dit. Alors des fois, on a des noms compliqués dans les revues scientifiques et aussi on a des noms compliqués dans les playlists. Vous écoutez donc Biotine pour vous tenir informé de l'actualité scientifique. Alors il y a des choses qui sont intéressantes, il y a des choses qui sont un peu plus effrayantes. Alors on va commencer par la chose plutôt intéressante. Ces chercheurs britanniques qui ont travaillé avec des Chiliens notamment, ils ont réussi à développer un espèce d'asphalte conçu à partir de déchets de matière organique. Okay. Et cet asphalte est capable de s'auto-réparer. L'intelligence artificielle a participé à optimiser cette solution, nous dit-on. C'est-à-dire que on a sur une route une fissure qui apparaît. Eh bien, le fait que cette fissure puisse se résorber d'elle-même sans la moindre intervention extérieure grâce à un asphalte d'un nouveau genre, eh bien c'est précisément ce que viennent de mettre au point des scientifiques de l'université du Pays de Galles, associés donc avec des chercheurs du Chili. Et ce pour autant, alors est-ce que oui, on se pose la question de savoir si c'est la fin des nids de poules qui sont des sources d'accidents et de dommages matériels importants. C'est une vraie question. Tout ce que l'on sait, c'est que cette innovation repose sur l'intégration de minuscules capsules remplies d'huile recyclée dans le bitume. C'est ainsi que lorsqu'il y a une fissure qui apparaît, eh bien, ces mini-capsules, ces spores, vont libérer leur contenu, ce qui va permettre au revêtement de se régénérer instantanément. Alors, il s'agit de déchets de matière organique, ce qu'on appelle la biomasse, qui sont capables, ces déchets, de boucher la moindre micro-fissure en moins d'une heure, d'après les premiers tests réalisés en laboratoire. Et donc les chercheurs se sont directement inspirés des mécanismes naturels de cicatrisation des plantes et des animaux pour créer cet asphalte capable de se réparer lui-même. L'intelligence artificielle a quant à elle joué un rôle important en simulant très rapidement le comportement du matériau à l'échelle moléculaire. L'idée, c'est de pouvoir améliorer la fabrication de cet asphalte et d'améliorer aussi sa reconstruction quel que soit le type de fissure. Et donc, ça reste encore en développement. Les recherches, elles pourraient bien un jour participer à révolutionner l'entretien des infrastructures routières à travers le monde. Et donc, à l'avenir, des algues brunes ou même de l'huile de cuisson recyclée pourraient également servir à la conception de ce type de matériaux. Mais là, voilà, c'est quand même assez intéressant. Cet asphalte qui s'auto-répare. C'est pas du bitume vivant, pas jusque-là, évidemment, mais en tout cas, c'est assez intéressant. Vous pouvez regarder sur certains sites internet pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Bon, ça reste du bitume, hein, quelque part, mais bon, le concept est assez intéressant. Ça, c'était l'information plutôt intéressante, on va dire plutôt, j'allais dire gaie, joyeuse, pas nécessairement, mais en tout cas, qui fait rêver. L'autre actualité qui est un peu plus dramatique, c'est la pollution plastique qui est partout et qui se répand dans l'environnement. La quantité de nanoparticules et de microparticules, donc on est vraiment sur des particules très très petites, eh bien, cette quantité a explosé au cours des 50 dernières années. C'est un fait malheureusement bien connu maintenant, mais cette pollution ne se retrouve pas partout de la même façon. C'est ce que soulignent des chercheurs de l'Université du Nouveau-Mexique aux États-Unis. Ils ont réalisé une étude qui est parue dans la revue Nature Medicine. Ils expliquent comment ils ont étudié la distribution de ces nanoparticules dans des foies, dans des reins et dans des cerveau humain. Il note d'abord que tous les échantillons analysés se sont avérés touchés. Alors déjà, c'est quand même assez inquiétant. Mais les échantillons de cerveau qui sont tous dérivés de la région du cortex frontal, eh bien, les échantillons présentaient des concentrations de particules de plastique nettement plus élevés que ceux des reins ou du foie, de 7 à 30 fois plus. Il y a plus de microplastiques dans le cerveau que dans les reins ou dans le foie. Cette étude le montre. Autre constat, les concentrations ont significativement augmenté, aussi bien dans les cerveaux que dans les foies entre 2016 et 2024. Et le tout indépendamment de l'âge, du sexe, de l'origine ethnique ou de la cause de la mort des personnes. C'est quand même assez inquiétant. En revanche, les chercheurs signalent une augmentation encore plus importante de ces nanoplastiques dans une cohorte de cerveau issue de personnes décédées avec un diagnostic de démence. Donc on pourrait, conditionnel bien sûr de rigueur, mais on pourrait faire un lien. Avec un lien entre la démence et la présence de ces nanoparticules assez importantes dans le cerveau. Et ces travaux ne permettent toutefois pas de conclure à une relation de cause à effet, bien évidemment, entre une présence de nanoplastiques et un impact sur la santé. Mais ça souligne cependant, une fois de plus, à quel point il devient crucial de mieux comprendre les voies d'exposition, les voies d'absorption, les voies d'élimination et bien sûr les conséquences potentielles sur la santé avec ces plastiques dans le corps humain et en particulier donc dans le cerveau. C'est une étude vraiment intéressante parce que on pensait pas avoir un tel résultat et de voir qu'il y a plus de microplastiques dans le cerveau que dans le rein ou dans le foie. Et c'est vraisemblablement très, très inquiétant, bien évidemment. Voilà, je vous ai bien plombé l'ambiance. Je vais essayer de chercher un truc. Tous les articles que j'ai sélectionnés ne sont pas assez bien, dans une actualité vraiment heureuse. Allez, tiens, on va aller sur Mars. Oui, parce que sur Mars, c'est toujours bien. On va aller sur Mars. En 2018, il y a eu un atterrisseur bourré d'instruments scientifiques qui se posait sur Mars. Son nom était InSight pour explorer justement un petit peu ce qui se passait sur Mars et notamment sonder l'intérieur de Mars afin de mieux comprendre sa structure interne et un petit peu sa dynamique. Et la mission, qui est désormais terminée, a été un vrai succès et via l'analyse des ondes sismiques produites par des petits séismes souvent produits par des chutes de météorites, et bien les chercheurs ont ainsi pu apporter des nouvelles et importantes contraintes sur la structure interne de la planète et notamment de sa croûte. On a pris plein d'informations. Il y a également des études précédentes qui ont montré que la croûte de Mars était caractérisée, au moins dans la zone couverte justement par cet atterrisseur, de 3 niveaux. C'est ça qui est assez intéressant. On a vraiment pu en savoir, avoir des informations jusqu'à 20 km de profondeur, par exemple. Donc c'est vrai que c'est vraiment une source d'informations assez intéressante. Il faut savoir qu'en fait, que la croûte terrestre, la croûte de la Terre, elle n'est pas du tout homogène et la présence de discontinuité observée dans les données sismiques, ça constitue toujours une observation importante parce que ça témoigne de changements dans les paramètres un petit peu physiques et chimiques, voire mécaniques de la croûte. Et donc ce qui se passe sur Terre peut également bien sûr se passer sur Mars. Et c'est ce qui a été un petit peu révélé. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu 2 chercheurs japonais qui avancent également une autre explication à la présence de ces discontinuités dans la croûte martienne. Selon eux, il serait en effet possible que c'est le fait que cette croûte martienne ne soit pas continue en profondeur, mais qu'il y a plusieurs choses qui apparaissent, eh bien, ça serait possible à la présence d'un niveau d'eau liquide en profondeur. Nous sommes sur Mars. Une hypothèse qui rejoint celle qui avait été annoncée l'année dernière par une autre équipe, dans la revue PNAS. La présence d'eau dans la porosité et les fractures de la croûte de Mars peut en effet impacter la vitesse des ondes sismiques. Et la transition entre un niveau sec et un niveau hydraté serait alors imagée par une discontinuité. Et donc du coup, on se dit que les résultats que l'on a pourraient être dus à la présence d'eau souterrain, d'une espèce d'océan souterrain. C'est ce qu'annoncent justement ces deux chercheurs japonais. Alors, se pourrait-il que, justement, c'est une hypothèse qui est assez fascinante parce qu'elle pourrait ouvrir la voie à la présence d'une vie microbienne dans les profondeurs de Mars. Et donc là, on est quand même vraiment dans des spéculations qui sont assez fascinantes et assez intéressantes. Et donc, ça se passe sur Mars. Donc, les fractures de la croûte de Mars pourraient donc renfermer de l'eau liquide. Une hypothèse assez intéressante qu'il va falloir, bien sûr... confirmé par la suite, parce que là c'est assez fascinant. Allez, on écoute encore un nouveau titre sur l'antenne de Graphite et on se retrouve juste après pour continuer ensemble à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. Break the Tension, c'était Marouja sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. On va parler des robots démineurs qui ne sont pas une nouveauté, bien sûr. Depuis les années 70, hein, ces engins qui sont souvent des petits blindés avec des chenilles étaient utilisés par les militaires Notamment, il y avait un modèle britannique qui s'appelait Wheelbarrow Mark 7, qui était même capable de monter des marches. C'était quand même assez fascinant. Mais à cause de leur chenille, justement, ces machines ont souvent été détruites par les mines enterrées qui n'étaient pas détectées. Et donc, on utilisait maintenant des robots chiens, tels que, par exemple, Spot de la société Boston Dynamics, qui changent la donne en raison de leurs petits appuis, de leur faible emprise au sol. Et rien de nouveau, mais au Royaume-Uni, eh bien, ces robots chiens ont été utilisés non seulement pour détecter des explosifs, mais aussi pour les identifier et même les neutraliser. C'est ça la nouveauté. Durant 4 jours, le laboratoire des sciences et technologies de la défense britannique a effectué des essais avec ces robots chiens, ces robots quadrupèdes équipés de bras robotisés et d'un canon. Lors de ces essais, il y a un opérateur qui était aux commandes, mais l'intelligence artificielle du robot pouvait également prendre en charge de nombreuses tâches de façon autonome. L'intelligence artificielle était même bien plus douée et précise que l'opérateur lorsqu'elle prenait la main sur les mouvements du robot. L'opérateur humain, quant à lui, pouvait se concentrer sur les éléments les plus importants de sa mission en laissant le robot réaliser certaines tâches. À l'aide de ses 4 pattes, eh bien, le robot peut monter des marches, franchir des obstacles et même ouvrir des portes. Et mieux encore, avec son bras robotisé, doté d'une pince articulée, eh bien, ce quadrupède peut désamorcer certains explosifs. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Lorsque ce n'est pas possible, eh bien, il est aussi équipé d'un petit canon pour tirer une munition sur l'explosif et déclencher justement l'explosif. L'ensemble de ces fonctionnalités fait du robot chien le démineur parfait. Il est placé à distance des zones de danger. L'opérateur, lui, il est placé à distance des zones de danger, c'est tout l'intérêt. Il n'a plus qu'à se concentrer pleinement sur les stratégies de déminage à entreprendre. Et donc, suite à ces 4 journées d'essai, eh bien, le laboratoire de la défense britannique semble être convaincu de l'intérêt et de l'efficacité de ces démineurs à 4 pattes. Voilà. L'armée britannique lâche des robots chiens équipés de canons pour désamorcer des bombes. C'est l'article de Futura Science. Il y a on va parler de Pompéi. En fait, quand on parle de Pompéi, on pense bien sûr à cette éruption du Vésuve en l'an 79 après Jésus-Christ, qui a détruit totalement cette ville du sud de l'Italie à côté de Naples. Pourtant, il y a une nouvelle étude qui révèle que ce dramatique épisode n'a pas été le premier dans l'histoire de la cité romaine. Il y a des fouilles effectuées parallèlement à la construction d'un pipeline à 10 kilomètres de Pompéi sur la localité de Canzarzano qui ont en effet dévoilé des empreintes de pas datant du début de l'âge de bronze, il y a environ 4000 ans. Il y avait des humains, il y avait des animaux qui semblent avoir fui précipitamment. Leurs traces de fuite ont été imprimées dans un niveau de cendres qui tapissait alors le sol. Des données archéologiques qui ont été corrélées à de précédentes études portant sur des sédiments et qui indiquaient que le Vésuve était entré en éruption en l'an -1995 avant Jésus-Christ, cette éruption elle aurait produit de grandes quantités de pierres ponces et elle est considérée comme ayant été plus puissante que celle survenue 2000 ans plus tard. Et donc les communautés qui vivaient à proximité du volcan semblaient alors avoir été dévastées, les traces d'occupation humaine ayant à chaque fois été retrouvées enfouies sous plusieurs mètres de débris volcaniques. Ce ne sont cependant pas les premières empreintes associées à cet événement volcanique qui ont été découvertes. Il y a une 20aine d'années, des fouilles sur un village de l'âge du bronze situé à Nola Croce de Capa. Ces fouilles ont révélé les traces d'une fuite massive des habitants au tout début d'une éruption. Et donc, si le devenir des personnes restera toujours une énigme, eh bien, les recherches archéologiques menées sur la région suggèrent que ces terrains sont par la suite restés inoccupés pendant de nombreux siècles. Alors, ça ne semble pas être le cas de Canzarzano, qui montre une réoccupation au moins dès l'an -1200 avant Jésus-Christ. Malgré la menace volcanique, la région de Pompéi a donc connu une occupation quasi continue au fil du temps. Aujourd'hui, bien Naples, comme une grande ville, se trouve à proximité immédiate du volcan. Elle est d'ailleurs la métropole la plus peuplée du sud de l'Italie. Donc voilà, il y a des traces de fuite humaine près de Pompéi qui révèlent une catastrophe plus ancienne et plus dramatique que celle qu'on évoque assez souvent quand on parle de Pompéi. On écoute un très court titre de Relsan et puis on terminera cette émission dans un instant. Yo, 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 hey, yo, 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 hey, yo, hey, yo. Tiggity check le mic quand j'arrive dans la session. Comme mon survêt Adidas, j'augmente la pression. Dans les années 90, nouvelle génération. Ils disent qu'on est des fous parce qu'on écoute nos Walkman à fond. Peu, passe-moi le chromi. Que je me serve de ma tête comme le but de Basil Boli. Que je big up, one love à tout mon possi. Je traîne avec plus d'étoiles que si j'étais dans Shinobi. Quand tu vois nos styles dans nos vidéos clips, les Wiggly Wack MCs font leurs valises comme gros quick. Tout va trop vite, nouvelle technologie. Bebop, tattoo, tam tam, Kobe. Oh oui, j'utilise plus de bande qu'une momie. J'écris des rimes sales comme Dolly. Golden, le RPR trouve ma musique obscène. Mais je serai bientôt dans le top 50 avec ma paire de top 10. Est-ce que je mens? Non. Est-ce qu'on baissera nos fuites pour quelques francs? Non. Pervers, j'ai le cerveau près des couilles comme Kang. Mais j'ai de la bonne poudre comme Tang. Hein. Quand on arrive dans la place, tout le monde met les mains dans les airs assurés. Comme si j'étais le roi de la pomme de terre, j'envoie la purée. Toi-même, tu sais, mon DJ devrait s'appeler Ovo Maltine. Boum, c'est de la dynamite aux platines. Ouh. 9-9-10 MC Orelsan B-Boy B-Girl Yeah DJ Scratch
Biotine Jean-Noël Moreau.
C'était 1990 d'Orelsan. Allez, on termine avec un dernier. Oh, pardon, je n'ai pas appuyé sur le bon bouton. Qu'est-ce qui m'arrive? Dernier article concernant les compléments alimentaires minceurs. Attention, il y a encore une alerte là qui vient d'être annoncée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Concernant donc les compléments alimentaires à base de plantes, le fait justement d'avoir d'essayer d'avoir une silhouette parfaite, eh bien ça pousse de nombreuses personnes à se tourner vers des solutions miracles. Et donc les compléments alimentaires à la base de plantes, il y a une alerte sur l'une d'entre elles qui est la Garcinia cambogia, un cas d'hépatite fulminante mortelle ainsi que des effets secondaires graves liés à sa consommation ont déjà été rapportés. Garcinia cambogia, et c'est un arbre dont le fruit ressemble à une petite citrouille. C'est utilisé en phytothérapie. Il est recherché pour son pouvoir d'absorption des glucides et des lipides, mais à la suite d'un cas d'hépatite fulminante mortelle et de plusieurs autres effets sévères signalés à son dispositif de nutrivigilance, eh bien, l'Agence nationale de sécurité sanitaire a engagé une expertise avec l'objectif de dresser un état des lieux des effets indésirables provoqués par la consommation de compléments alimentaires à base de Garcinia cambogia. Résultat, il y a eu 38 signalements qui ont été déclarés ces 15 dernières années. L'agence a identifié également plusieurs interactions médicamenteuses de nature à entraîner une augmentation des effets secondaires et indésirables ou une perte d'efficacité des médicaments. Ces effets peuvent se manifester chez des personnes ayant des antécédents de troubles psychiatriques, de pancréatite, d'hépatite, d'atteinte de certaines maladies cardiométaboliques comme le diabète, l'obésité, l'hypertension, ainsi que chez des personnes traitées par des médicaments connus pour affecter la fonction hépatique, par des traitements antirétroviraux ou par des traitements antidépresseurs. C'est ce que rapporte donc l'ANSES. Néanmoins, des effets sévères ont également été signalés chez des consommateurs sans aucun antécédent médical. Alors, comme le rappelle l'ANSES, depuis 2012, la prescription et la délivrance de médicaments ou de préparations médicinales à base de Garcinia cambogia sont interdites en France. Pour les compléments alimentaires, en revanche, leur utilisation n'est pas proscrite. Alors oui, c'est là que c'est un petit peu compliqué. Quand même, les allégations santé associées à cette plante n'ont jamais été scientifiquement validées. C'est-à-dire qu'on considère qu'avec cette plante, on pourrait avoir un contrôle du poids, une réduction du stockage des graisses, une diminution de l'appétit, une régulation de la glycémie, du cholestérol. Eh bien, ça n'a pas été validé scientifiquement. Et les effets amaigrissants supposés de la Garcinia cambogia sont attribués à l'acide hydroxycitrique présent dans ce fruit. Et c'est justement ces substances qui fait actuellement l'objet d'une évaluation des risques par l'Autorité européenne de sécurité des aliments. L'idée, justement, c'est de pouvoir conduire à son interdiction totale en Europe. Donc faites attention si vous utilisez des compléments alimentaires minceurs qui contiennent de la Garcinia cambogia. Il y a plusieurs années que ça traîne, en fait, cette histoire. Et là, donc, il y a une alerte qui est quand même donnée. Donc soyez vigilants, bien évidemment. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve samedi prochain. On va continuer comme ça à feuilleter la revue de presse d'actualité scientifique, une actualité qui n'arrête pas, bien évidemment. D'ici là, vous restez fidèles à l'ensemble des émissions de Graphite sur le site internet graphite.net, où vous avez également la possibilité de pouvoir récupérer les podcasts, et bien sûr graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM Biotine. C'est tous les samedis entre 12h et 13h, la rediffusion mardi matin à 10h. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine. À bientôt, au revoir.